Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans un nouveau podcast. Le thème aujourd'hui, Cataline Carico, sauveuse de l'humanité ou 5 leçons d'innovation pour la France. Alors retenez bien ce nom si vous ne le connaissez pas déjà, Cataline Carico. De façon sans doute un peu exagérée par des journalistes qui aiment les belles histoires, elle a été qualifiée de « femme qui allait sauver l'humanité », mais il y a beaucoup de vrai néanmoins. Car son histoire n'est pas banale. Chercheuse brillante, elle fuit sa Hongrie natale en 1985 car elle manque de moyens. Elle atterrit aux États-Unis. Aujourd'hui, à l'université de Pennsylvanie, c'est l'inventeuse du vaccin à ARN messager, celui qui a sauvé des millions de vies menacées par la Covid. Alors, c'est une belle histoire, comme on aime à les conter, celle de l'inventeur parti de rien, seul contre tous, qui manque de tomber plusieurs fois, mais qui se relève et qui réussit finalement à triompher et connaît enfin la gloire. Mais plus prosaïquement, c'est aussi une histoire dont nous pouvons tirer des leçons utiles pour l'innovation, et singulièrement pour notre pays qui en a bien besoin. Alors, quelles leçons tirer de l'incroyable aventure de Cataline Carico? Bien sûr, celle-ci ne sauve pas l'humanité à elle toute seule. Le vaccin sauve des vies parce que tout un système social, technique, économique a été mobilisé pour le mettre au point, le financer, le tester, le fabriquer, le distribuer et l'administrer. Ce système mobilise des centaines de milliers d'acteurs. Il n'empêche, sans sa détermination et sa conviction chevillée au corps, que la technologie à base d'ARN messager était prometteuse, nous serions aujourd'hui démunis face à l'épidémie. Alors j'identifie pour ma part 5 leçons. La première leçon, ce n'est pas l'idée qui compte, mais son acceptation. Alors l'important n'est pas d'avoir une bonne idée, mais de faire accepter cette idée. Cataline Carico a eu très tôt l'intuition que l'ARN messager était une technologie prometteuse, sans forcément savoir où l'appliquer. Cette idée était d'ailleurs minoritaire. Les chercheurs, à l'époque, travaillaient sur les modifications d'ADN, solution que Carico trouvait compliquée et dangereuse. Son opposition lui vaut d'être quasiment licencié de l'université de Pennsylvanie. Heureusement, un responsable de la faculté de médecine de la même université la connaît et lui fait confiance. Il lui trouve un poste où elle peut reprendre ses recherches. Plus tard, elle s'associera avec la start-up allemande BioNTech pour mettre au point le vaccin. Alors, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, mais aussi de découvertes scientifiques, qui correspondent aux mêmes logiques, on raisonne souvent en termes d'idées. Est-ce que mon idée est bonne? En pensant qu'il suffit d'avoir une bonne idée pour que tout le monde l'accepte. C'est une erreur très fréquente, notamment chez ceux qui ont une formation scientifique. Ce que cette histoire montre, c'est qu'avoir une bonne idée ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est convaincre les autres que l'idée vaut la peine d'être poursuivie. Alors, comme disent les Américains, « salesmanship is part of the game », c'est-à-dire la vente fait partie du jeu. Autrement dit, la science, tout comme l'entrepreneuriat, est un exercice social. La carrière de nombreux innovateurs a été brisée pour avoir ignoré ce précepte fondamental. Cataline Carico a réussi parce que son travail et sa personnalité ont suscité la confiance d'acteurs clés, et les a amenés à s'engager dans son projet d'une façon ou d'une autre pour le faire avancer. Deuxième leçon, offrir des voies multiples de succès. Alors ce qui a sauvé Cataline Carico est que face à l'hostilité de ses collègues de l'université de Pennsylvanie, il s'est trouvé un service dont le responsable croyait en elle et lui a trouvé un job. Un système devient ainsi robuste lorsqu'il offre de multiples portes de sortie ou voie de rattrapage à ceux qui ne cadrent pas avec les croyances du moment. Ce fut l'une des grandes forces de l'Europe de l'après-XVIIe siècle. Quand un homme, philosophe ou scientifique, était persécuté chez un prince, il pouvait toujours partir trouver refuge chez un autre prince. L'Europe a ainsi constitué une grande foire d'idées et de croyances qui fut source d'innovation et de robustesse en empêchant une croyance dans un domaine de s'imposer totalement. Tous les grands innovateurs questionnent les modèles mentaux dominants, ces croyances profondes qui sont vues par ceux qui les ont comme des évidences, des vérités qui ne peuvent être questionnées. Sans voies alternatives d'avancée, les innovateurs sont condamnés à aller attaquer ces modèles frontalement, sans pratiquement aucune chance de succès. Les dindes ne votent pas pour Noël, je pense à tous ces innovateurs qui participent au concours interne de leur entreprise et doivent passer devant un jury de sages, c'est-à-dire de gens qui doivent leur carrière au système en place, système que les innovateurs viennent précisément questionner. Troisième leçon, avoir conscience de la limite des grands programmes. Cette leçon est directement liée à la précédente. Il existe un courant important qui prône le développement de grands programmes dits moonshot, en référence au programme spatial de conquête de la Lune, inspiré du fameux programme Apollo de Kennedy. Ce courant est très prisé en France. Dès que nous connaissons un échec quelque part, on parle tout de suite de lancer un grand programme. On a donc pu entendre certains évoquer un Airbus du vaccin. Et pourtant, si la réussite de Kathleen Carrico montre une chose, c'est qu'elle n'est pas le produit d'un grand moonshot, mais d'une détermination individuelle à poursuivre une idée. Dans son domaine, les grands programmes des années 90 se basaient sur l'ADN, et c'est sa contestation de ces programmes qui lui a valu des ennuis. Le principe de ces programmes est d'identifier un programme clair avec une solution tout aussi claire, puis de miser massivement sur sa résolution. C'est le propre d'une démarche causale. On fixe un objectif, on choisit une solution, puis on mobilise des moyens pour mettre cette solution en œuvre. Cette approche fonctionne relativement bien pour des objectifs simples et clairs, surtout dans un environnement stable. Elle est risquée face aux problèmes complexes dans lesquels les paramètres sont si nombreux qu'on ne sait pas à l'avance d'où la solution peut émerger. En l'occurrence, dans ces situations de rupture où on avance dans l'inconnu. Le programme Airbus, tant vanté, a réussi parce qu'il ne consistait qu'en un rattrapage de Boeing. Ce n'était pas facile, loin de là, mais la référence d'un tel programme pour des situations de rupture est contre-indiquée. Les grands programmes sont également inadaptés lorsqu'on part d'une solution et qu'on cherche un problème. En d'autres termes, lorsque l'objectif n'est pas connu à l'avance, comme ce fut le cas des travaux de Kathleen Carrico. Mais au-delà, les grands programmes Moonshot ont aussi le défaut de figer a priori à la fois la définition du problème et la solution recherchée, c'est-à-dire de s'enfermer dans un modèle mental figé. Ils éliminent de facto toute pensée alternative et ignorent que la révolution industrielle a résulté de l'expérimentation et de la démarche entrepreneuriale par petites victoires menées par des individus en marge du système. Autrement dit, les grands programmes pensent science dirigée alors que la réussite de l'ARN messager traduit une pensée plutôt entrepreneuriale. Quatrième leçon, l'incroyable pouvoir de l'intelligence humaine. Est-il besoin de le préciser, la mise au point et la fabrication du vaccin, en fait de plusieurs vaccins, en un temps record, est une prouesse extraordinaire. L'être humain a une incroyable capacité d'innovation pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté, même si parfois ceux-ci semblent immenses. Faisons ici une sorte de pari de Pascal. Plutôt que de céder au pessimisme, qui ne nous fait en rien gagner, parions sur cette capacité en regardant l'avenir comme infiniment ouvert. Il ne s'agit pas d'être naïvement optimiste, les défis sont nombreux et de taille, mais de reconnaître que le pessimisme, de toute façon, nous enferme. Parier sur le génie humain et tout faire pour qu'il s'épanouisse est beaucoup plus raisonnable. Cinquième leçon, questionner les modèles mentaux français. Alors effectivement, la cinquième leçon est spécifiquement française. Beaucoup a été écrit sur l'échec des entreprises françaises à développer un vaccin. Trop peut-être. Un pays ne peut pas tout faire et tout programme de recherche d'un vaccin ou d'un médicament peut échouer. Ce sont des choses qui arrivent. C'est même le lot des industries pharmaceutiques. Néanmoins, il ne fait aucun doute que cet échec devait être l'occasion d'une prise de conscience de notre pays pour ce qui concerne l'innovation. Comme en juin 1940, nous pouvons nous complaire dans une recherche de fautes passées et de coupables, version maréchal Pétain, ou nous pouvons au contraire prendre acte de l'échec et regarder vers l'avenir, version de Gaulle, en nous demandant que faire pour que la prochaine Kathleen Carrico soit française, ou à tout le moins qu'elle émerge et réussisse en France. On pourrait intituler ce travail « Opération Marie Curie ». Qu'est-ce qui fait que nous avons « réussi » entre guillemets Marie Curie, mais pas Kathleen Carrico? Beaucoup d'observateurs ont proposé des pistes d'explication au premier chef desquels le fameux principe de précaution. Il est certain que celui-ci nous enferme dans une logique infernale dans laquelle le risque estimé est toujours supérieur aux bénéfices possibles. On a évoqué aussi, à juste titre, le salaire misérable des chercheurs en sciences. Je me souviens d'un ami chasseur de tête, spécialisé dans le débauchage des chercheurs français au profit d'entreprises et d'universités américaines. Il était effaré que ses cibles gagnent moins que son assistante, mais surtout de leur manque criant de moyens financiers et humains et de la stupidité bureaucratique. Il y a beaucoup d'autres raisons au marasme français, mais derrière tout cela, ce sont au final les modèles mentaux bien spécifiques, c'est-à-dire des croyances profondes qu'il faut aujourd'hui questionner. Essentiellement, notre pessimisme, notre réflexe systématique à voir le mauvais côté d'une innovation, très souvent fantasmé. J'en fais régulièrement l'expérience, lorsque j'évoque les progrès de la robotique, on me répond systématiquement que ça va créer du chômage, alors qu'on a depuis longtemps montré le contraire. Lorsque j'évoque les progrès de la génétique et de la biologie synthétique, on me répond Frankenstein. Nous sommes prisonniers d'un énorme modèle mental de peur du futur et d'une nostalgie d'une époque dorée qui n'a jamais existé. On pense ainsi qu'on mangeait mieux avant. Plus précisément, le futur nous fait peur et il nous dégoûte. Il ne nous intéresse pas ou plus. Quand j'évoque les incroyables pistes de croissance économique possibles qui tireront des milliers de gens de la pauvreté, on me répond que cela épuise la planète, alors que plus un pays est riche, plus il est écologiste. Il s'agit de changer la façon dont nous voyons l'avenir et dont ceux qui le contribuent à le créer sont vus et reconnus dans la société. Voilà, 5 modèles mentaux, 5 leçons à tirer. Ce n'est pas l'idée qui compte, mais son acceptation. Il faut ouvrir de voies multiples de succès. Il faut avoir conscience de la limite des grands programmes. Le pouvoir de l'intelligence humaine est incroyable et il faut questionner les modèles mentaux français. En bref, l'échec face au vaccin devrait être l'occasion d'un sérieux examen de conscience, mais comme l'a montré le traumatisme de 1940, cet examen peut nous conduire dans des directions différentes, le repli ou le sursaut. Nous n'avons aucun péché à expier, ni traître à démasquer et à punir. Nous avons à tirer les leçons d'une situation regrettable et nous convaincre que le futur est à nous, si nous savons nous en emparer. Faute de quoi, ce sont les autres qui le feront et il ne nous restera plus qu'à devenir un grand parc d'attractions et de conservation de la vie d'avant. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzahn.com. À bientôt.